Il est 7h.
Ça a créé un désordre physique. On a l'impression d'être emprisonné dans un corps qu'on ne reconnaît plus. Ça fait 8 mois qu'on souffre, qu'on a mal.
Des symptômes qui n'en finissent plus. Ils se prolongent pendant des mois, notamment une terrible fatigue. On va s'intéresser ce matin au Covid long et aux solutions qui se profilent pour aider les malades. L'affaire Fiona en procès pour la 4e fois à Lyon. La mère de la fillette, une personnalité complexe, a eu un nouvel enfant qui lui a été retiré. Dans ce journal, l'un est tombé à l'eau et maintenant ils sont tous les deux sur le bateau. Kevin Escoffier et son sauveur Jean Le Cam, mais le vent des globes continue. Et puis c'est une BD à succès dont la nouvelle saison commence aujourd'hui. Lou, l'ado, bascule dans le monde des adultes.
Juste après ce journal, l'Union Européenne qui teste Joe Biden sur la taxe GAFA, c'est l'éclairage éco de Nicolas Barré. Toujours l'Europe et l'harmonisation entre États pour un Noël en temps de Covid. Le regard international de Vincent Hervouet. Pour la première fois, une femme va arbitrer un match de Ligue des Champions et c'est une Française, l'édito sport de Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous, vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On les appelle les Covid longs, ces malades au long cours qui traînent leurs symptômes pendant 6 à 8 mois. Au départ, les médecins ne les prenaient pas au sérieux. Désormais, ils tentent de comprendre cet étrange phénomène.
Et c'est le dossier qu'on ouvre ce matin sur Europe 1. Les Covid longs représenteraient jusqu'à 30% des malades. Grosse fatigue, troubles neurologiques, quinte de tout. Les symptômes sont multiples.
Écoutez d'abord Amélie, elle a 43 ans. Cette marathonienne courait jusqu'à 60 km par semaine. Aujourd'hui, elle n'arrive pas à remonter la pente comme elle le raconte à Jeanne Bergaoui.
J'ai une fatigue terrassante, mais vraiment. Je fais des rechutes à l'effort si je fais trop d'activité. Et quand je dis des rechutes, ce sont des douleurs, une gêne respiratoire et des inflammations cutanées. C'est extrêmement douloureux. On ne m'endort pas tellement on a mal. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'être prise en charge par, au-delà de mon médecin généraliste, par un dermato, un pneumologue, un endocrinologue, un gynéco, parce que j'ai eu aussi des bouleversements hormonaux absolument hallucinant. J'ai dû me faire opérer il y a 15 jours à ce niveau-là. Ça a créé un désordre physique. On a l'impression d'être emprisonné dans un corps qu'on ne reconnaît plus. Ça a créé beaucoup de chagrin. Ça crée beaucoup de moments de solitude. Et c'est surtout stressant d'avoir mal, en fait. Ça fait 8 mois qu'on souffre, qu'on a mal.
Bonjour Théo Manval.
Bonjour.
Une équipe de l'hôpital de l'Hôtel Dieu à Paris s'apprête à publier les résultats d'une étude sur 70 de ces malades. Vous pouvez nous les donner en avant-première sur Europe 1, Théo. Quel est leur profil ?
Eh bien, ce sont des jeunes, essentiellement des femmes, et qui ont eu un Covid peu grave au printemps, pas de passage à l'hôpital, mais qui, 9 mois après, donc, continuent de subir 3 grands types de symptômes, explique la professeure Dominique Salmon-Séron, qui a coordonné l'étude à l'Hôtel Dieu.
D'abord, une fatigue souvent terrassante qui les a parfois obligés à interrompre à nouveau leur travail alors qu'ils l'avaient repris. Ensuite, on a des signes neurologiques, troubles de concentration, des troubles de mémoire, des maux de tête aussi. Ensuite, en troisième position, on a des signes cardiothoraciques. C'est des gens qui toussent encore, qui ont des douleurs, des variations du rythme cardiaque.
Auxquels s'ajoute parfois une perte à nouveau de l'odorat, des troubles digestifs ou des problèmes de peau. Alors, quelle cause possible ? Ce sont encore des hypothèses, mais les chercheurs se sont rendus compte que 10% de leurs malades avaient encore du virus dans les sécrétions nasales au bout de 4 mois. Donc, il peut persister longtemps dans l'organisme. 90% des patients étudiés, en revanche, n'ont plus de virus dans le nez. Les scientifiques essaient de savoir s'il a pu persister autrement, ailleurs dans le corps, notamment son ARN dans nos cellules. Ces patients ont-ils pu, autre piste, être réinfectés ? Ont-ils un terrain génétique particulier ? Toutes ces recherches se poursuivent, mais les autorités de santé commencent à étudier sérieusement la question de la reconnaissance et d'un meilleur accompagnement de ces malades.
C'est Covid long, justement. Nous sommes avec le médecin d'Europe 1. Bonjour, Jimmy Mohamed.
Bonjour, Hélène. Bonjour à tous.
Est-ce qu'on peut apporter une note d'espoir à ces malades ? Est-ce qu'il y a des traitements spécifiques pour eux ?
Alors, pour l'instant, on n'a pas de traitement spécifique, mais en tout cas, ce qu'on doit conseiller aux gens, d'abord, c'est nous, les médecins, nous devons écouter ces malades. Le mécanisme, pour l'instant, n'est pas très clair. On sait que les infections virales peuvent perturber le système immunitaire. Si je vous donne l'exemple de la mononucléose, on sait que les patients vont avoir une fatigue résiduelle parfois pendant plusieurs mois. Et c'est source souvent d'échecs scolaires pour les adolescents qui sont toujours fatigués. Ce qu'on peut conseiller de façon pragmatique ce matin, c'est que les malades se regroupent sous forme d'associations pour que la maladie soit reconnue et peut-être que le gouvernement en fasse même peut-être une infection action longue durée pour une prise en charge à 100%. Et puis, nous devons aussi, nous les médecins généralistes, adresser ces malades dans des centres de référence puisque des protocoles sont en cours. On teste parfois des anticoagulants, des anti-inflammatoires ou des corticoïdes. Et s'il fallait retenir une seule chose ce matin, c'est qu'il faut vous faire vacciner pour éviter justement ces Covid longs puisque par dizaines ou centaines de milliers, nous allons créer de nombreux malades par la suite.
Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, et on va vous retrouver tout à l'heure, hein, comme tous les jours à 8h35, notre santé, puis dans l'émission Sans Rendez-vous avec Mélanie Gomez entre 15h et 16h.
Vous parliez du vaccin, Jimmy, hier Emmanuel Macron a donné le calendrier, décembre, janvier, les personnes les plus fragiles, pour le grand public entre avril et juin, mais sans obligation. Et à propos des traitements, des chercheurs américains travaillent en ce moment sur un spray nasal qui protégerait du Covid en utilisant le principe de la thérapie génique.
Le chef de l'État qui va par ailleurs empêcher les Français d'aller skier chez nos voisins cet hiver.
Et notamment en Suisse où les remontées mécaniques sont ouvertes, il se dit prêt à prendre des mesures dissuasives, comme par exemple une quarantaine obligatoire au retour.
Il est 7h06 sur Europe 1. C'est un récit qui nous a tous émus, impressionnés ce matin. Celui du sauvetage miraculeux de Kevin Escoffier par un autre concurrent du Vendée Globe, Jean Le Cam.
Et tous deux ont reçu un appel vidéo de félicitations hier. C'était Emmanuel Macron en personne.
On est hyper fiers, hyper heureux pour Kevin et vous. Chapeau une fois encore. Hein.
Super, merci d'avoir passé un petit moment ensemble.
Ah, ça m'a fait super plaisir. Et je peux vous dire que ça me fait du bien aussi. Et allez jusqu'au bout, Jean. Et merde pour la suite.
Ok, merci.
Normalement, on ne dit pas merci hein, quand on vous dit merde. Normalement, on ne dit pas merci. La course en solitaire a repris, mais deux hommes sont désormais à bord du même bateau. Une situation pour le moins inhabituelle, mais pas inédite dans le Vendée Globe, Corinne Boulou.
Un tel cas de figure s'est déjà produit à deux reprises dans le Vendée Globe. En 1996, Raphaël Dinelli, en perdition sur la coque de son bateau en train de couler, avait été récupéré par l'anglais Pete Goss, puis débarqué 12 jours plus tard en Tasmanie. Et en janvier 2009, c'est Jean Le Cam, réfugié dans son voilier retourné, qui est secouru par Vincent Rioux 19 heures après son chavirage non loin du Cap Horn. L'ancien vainqueur du Vendée Globe, Vincent Rioux, se rappelle cette vie particulière à bord, à deux, en solitaire.
Ouais, c'est un moment assez particulier parce que on se retrouve avec un passager à bord qui a rien le droit de faire. On est très content d'avoir à bord parce que au final c'est l'issue d'une situation qui aurait pu être très compliquée voire dramatique. Et puis il y a tout ce dialogue qui s'installe et qui est encore plus riche qu'à l'habitude parce que on sort d'une période émotionnelle forte.
Leur vie à deux dans le Vendée Globe a été brève puisque le lendemain le voilier endommagé lors de l'opération de sauvetage dématait. Kevin Escoffier, lui, devrait rester avec Jean Le Cam jusqu'à son probable débarquement le 7 décembre prochain sur une frégate de la Marine nationale près des îles Kerguelen, au beau milieu de l'océan Indien.
Et bien sûr, Jean Le Cam et les trois autres navigateurs qui s'étaient déroutés pour le sauvetage ont droit à une compensation de temps à leur arrivée au Sable d'Olonne. Ce matin, Charlie Dalle invoque toujours en tête de la course.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h10 sur Europe 1, la suite du journal, Hélène Zélani.
Récit glaçant hier au procès de l'affaire Fiona devant les assises du Rhône. La mère de la petite fille, Cécile Bourgeon, a raconté une vie marquée par la drogue, mais aussi les grossesses à répétition. D'ailleurs, depuis sa sortie de prison, elle s'est mariée, a eu un quatrième enfant qui lui a immédiatement été retiré. Ce récit a choqué l'avocat du père biologique de Fiona, maître Charles Fribourg.
J'ai les mêmes interrogations que le président de la cour d'assises par rapport à cette relation, quelqu'un qui est en situation irrégulière et elle effectivement qui a obtenu un enfant, sachant qu'elle en a deux autres dont elle ne s'occupe pas beaucoup. Donc elle est toujours dans la même stratégie, le même schéma. J'ai pas vu grand chose de nouveau, à part cette situation où on découvre effectivement qu'elle s'est préoccupée d'avoir une nouvelle vie mais pas de renouer avec ses enfants. Elle pense que c'est dans son intérêt, je pense qu'elle est dans le calcul permanent. Elle réfléchit en permanence sur qu'est-ce qui va pouvoir lui servir dans le cadre de sa défense.
Maître Fribourg au micro de Jean-Luc Boujon. Un mot de foot, l'OM a mis fin à une série de 13 défaites en Ligue des Champions hier soir. Victoire 2-1 contre l'Olympiakos. Ce soir, le PSG se déplace sur le terrain de Manchester United. Défaite interdite pour garder des chances de qualification en 8e.
C'est l'un des personnages de BD les plus célèbres de ces dernières années. Lou, 3 millions d'exemplaires vendus en France pour les 8 premiers tomes. Une traduction en près de 20 langues.
Lou, une fillette, puis une adolescente. Dans cette nouvelle saison, elle entre dans le monde des adultes. Changement de vie, mais aussi changement de format pour ses nouvelles aventures, Mathieu Charrier.
Depuis le début, Julien Niel, l'auteur de Lou, a décidé de faire vieillir son personnage au fil des tomes et des histoires. C'est assez rare en bande dessinée. Et désormais, Lou entame donc ses études dans la ville imaginaire de Tigre, toujours accompagné de son chat, dans ce studio étudiant qui paraît au départ bien vide et si grand et qui va finalement devenir son refuge préféré. Lou qui est en quête d'identité, explique Julien Niel.
Le thème de l'album, c'est sur la naissance d'une idée, la façon dont elle va commencer à trouver sa voix. D'un coup, j'ai réalisé que j'avais encore des choses à dire au-delà de l'adolescence.
Et malgré ses 3 millions d'exemplaires vendus, avec sa première saison, comme il l'appelle, Julien Niel a décidé de changer complètement de format. Fini la BD classique, façon Tintin ou Astérix, et ses 48 pages. Place au roman graphique, au dessin déstructuré, et ses 144 pages.
J'ai beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'ampleur. Là, j'ai beaucoup plus de pages, mais moins de cases par page, ce qui me permet de faire plus de sauts de page et plus d'effets. Ça m'a permis d'exploser ma mise en page, de faire des images plus larges, plus grandes.
Lou sous-titré Sonata, car à 18 ans, on commence à écrire sa propre partition, sa propre sonate. L'album est d'ailleurs accompagné d'une bande-son pour rythmer la lecture, bande-son composée pour l'occasion et disponible gratuitement sur toutes les plateformes.
BD et bande-son pour Lou, le premier tome de la deuxième saison Sonata sort donc aujourd'hui chez Glénat.
Merci beaucoup Hélène Zélani, c'était le journal de 7h.